Albine.
Bonjour Véronique.
On va continuer à explorer la Namibie par les contes que vous avez écrits. Et alors, on était dans le désert avec un suricate la dernière fois. Aujourd'hui, on est toujours dans le désert ou pas ?
On est dans le désert, mais on est aussi dans l'océan Atlantique. Parce qu'en fait, la Namibie est un petit peu au sud du Finistère.
Un peu.
Un peu. Mais elle est toujours en façade atlantique, néanmoins.
Oui, finalement, c'est. Alors, elle n'est peut-être pas aussi avancée que le Finistère. Géographiquement, c'est assez droit, la côte namibienne, c'est ça ?
Oui, elle est avec le dernier port en eau profonde, Walwis Bay, et quand on descend plus loin, on arrive au Cap de Bonne-Espérance. Mais c'est déjà l'Afrique du Sud. S'agissant de son positionnement, elle ne doit pas être si loin de la pointe du Finistère.
Il n'y a pas de péninsule, enfin, c'est pas la même forme.
Non, pas de péninsule,
voilà,
non,
c'est ça.
Tout à fait.
Et donc cet océan aussi important, évidemment, que le désert dont on a parlé la dernière fois. Et comment s'appelle l'histoire d'aujourd'hui, alors ?
Elle s'appelle l'eau si douce de la Kunene, rivière faisant la frontière entre l'Angola et la Namibie au nord.
Une grande rivière ?
Une grande rivière, avec des chutes également, bien sûr, une grande rivière.
L'eau si douce de la Kunene.
Swimpy l'otari swingait avec les vagues. Splatch, splitch, plic-ploc, lui répondait ploup, l'eau, glissant sur les pelisses, cliquetant de perles salées. Le long de la Skeleton Coast, à Cape Cross, Swimpy et l'eau iodée étaient amis. Aussi joueuses l'une que l'autre, se frottant sans jamais se friter, folâtres et fofolles, elles fulminaient du brouillard épais qui enrobe les squelettes de bateaux. Silhouettes de bois échouées au gré des vents mauvais et de l'écume furieuse, elles parsèment le paysage atlantique du Namib, là où Swimpy rêvasse parfois face aux dunes du plus vieux désert au monde. Elle voulait toujours regarder derrière les dunes, se demandant si d'autres pays, d'autres eaux, existaient au-delà des sables oranges, se dressant telles des murailles mouvantes. « Orange, se dit-elle, je connais ce nom. C'est aussi celui d'une rivière du Pays des Braves. Mais elle coule bien loin de notre Skeleton Coast. » Elle questionnait Splouan Ploump, son ami maritime. « Tu dois bien le savoir, toi qui appartiens au monde de l'eau, si d'autres peuplades habitent loin de la terre. » « Oui, dit Ploump. Oui, finit-elle par admettre. D'autres eaux, certes, mais elles ne font pas de vagues. Elles sont si fades que leur goût de gouttelette est transparent. » Insignifiant, inintéressant. Que veux-tu donc chercher là-bas ? Alors qu'ici, là, maintenant, nous sommes si bien entre sable blanc, languissant de la plage, éparpillé de galets aux reflets de pépites roses de fer, et les dunes hautaines en soleil rouge des dômes protecteurs. Swimpy, facétieuse et joueuse, grandit à l'ombre des cathédrales de grains orange. Et s'alanguit souvent de pensées vagabondes vers cet imaginaire d'ailleurs, puis la vie la reprenait. Et elle devint maman d'une petite otarie rieuse nommée Hélène. Entre son amie Ploump et sa fille chérie, elle n'avait pas de temps devant elle, pas de temps pour elle. Alors elle continua inlassablement de sauter d'une vague à l'autre, d'apprendre les plongées à 45 mètres de fond à Hélène pour y trouver les bons bancs de poisson ou croquer ses repas. Puis vint le temps où Hélène avait grandi et s'était lancée vers le large avec sa bande de copains phoques et pingouins pour rejoindre le cap, arpenter le waterfront et rendre visite aux pingouins noirs et blancs de Boulder Beach. Swimpy et Ploump, un peu moins souples dorénavant, se demandaient comment occuper leur retraite, elles qui ne pouvaient plus sauter aussi haut, nager aussi loin. Elles songèrent à leurs rêves d'enfance. Ploump voulait se languir au soleil, non loin de la célèbre jetty, jeté touristique de Swakopmund. Et Swimpy, bien sûr, n'avait jamais oublié son eau de là-bas. Ploump savait qu'elle risquait gros en se prélassant sous les rayons du soleil, car d'eau fluide et liquide, elle risquait de s'évaporer en brume et de s'envoler à jamais, au gré des zéphyrs chargés de la fraîcheur du Benguela. Quand on est l'eau, éprouver cette sensation unique de la chaleur, puis celle de l'air, telle une montgolfière légère s'élever en bruissant le courant froid. Cette ultime et exceptionnelle sensation ne serait-elle pas une bonne note de vie pour passer dans l'eau de là ? Elle, qui se savait si éphémère, elle avait déjà vécu si longtemps, elle décida qu'elle se devait cette audace pour ne pas regretter. Swimpy et Plume se convoquèrent au pied des dunes éclairées par la lune et eurent la surprise d'y rencontrer Charles le Chacal, un mâle canidé dans la force de l'âge. Ce fut un conseil des seigneurs tout à fait étonnant, réunissant un chasseur d'otaries avec deux vieilles amies facétieuses, comme si ses projets un peu fous les rendaient invulnérables. Comment l'eau de la mer pourrait-elle rejoindre les transats de la station balnéaire de Swakopmund ? Et comment une vieille otarie pourrait-elle explorer le monde des animaux terrestres pour y trouver une rivière et y nager ? Alors, autour du clair de lune, bercé par le son du sable, Swimpy et Plumpt écoutèrent bouche bée les conseils de Charles, devenu mi-géographe, mi-guide. Pour se faire bronzer sur la plage de Swakopmund, Plumpt, il te faudra voyager dans les poils de pelisse lisse de ton ami Swimpy, qui te déposera au bout de la jetée, et alors tu remonteras vers la plage par les piliers et les poteaux, puis tu trouveras une ancre pour te reposer, et ensuite, en sautant sur les maillons de la chaîne d'amarre, tu arriveras sur la plage. Swimpy, il faudra te frayer un chemin après avoir assemblé toutes tes forces pour aller vers la Kunene. L'eau y file si vite que tu ne ressentiras plus aucune fatigue en te laissant porter. Mais il faudra te méfier des crocodiles qui ressemblent à des troncs d'arbres. Cette eau douce que tu trouves si fade, Plumpt, elle saute, elle jaillit des chutes des Poupas, vers Caprivi, vers l'Okavango, et loin, très très loin, il y a le Zambèze, là où les arcs-en-ciel éclairent le ciel au-dessus des chutes Victoria. Les rivières et les fleuves sont nos gardes-frontières, avec l'Angola, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe. Ces eaux n'ont rien de transparent, ni de fade ou d'insignifiant. Elles portent la vie ici. À cet endroit, l'eau vole par les rochers et les arbres. Elle s'élance comme des milliers d'oiseaux mouillés qui claqueraient leurs ailes grandes ouvertes dans un vacarme assourdissant. C'est un voyage à nul autre pareil, une expédition merveilleuse. Swimpy, je peux t'aider et te guider jusqu'à la Kunene en portant de l'eau iodée sur mon dos et en te faisant glisser sur le sable comme sur un ski nautique avec une corde et un bois flotté. Alors commença une étrange expédition. Le chacal par la terre, l'otarie et l'eau par la mer se rendirent à la Djeti. L'eau n'était pas que dans l'océan. Elle était dans les yeux de Swimpy, la vieille otarie qui savait bien qu'elle ne reverrait jamais son amie. Alors, avec une infinie douceur, elle la déposa sur la partie écaillée de l'ancre, là où, entre deux éclats de métal, Plumpt pouvait se lever, à l'abri des vaguelettes, risquant à tout moment de l'emporter à nouveau vers le courant. Plumpt se posa là, en observant cette jetée qui pénétrait comme une lame de bois dans son océan, et où se logeaient des restaurants pleins de sourires derrière les vitres. Ceux des touristes émerveillés devant ce paysage singulier, venus chercher là l'étonnement qui les avait abandonnés dans leur lointain tailleur métropolitain. Plumpt voulait savourer ce luxe inédit, elle petite goutte d'eau anonyme inconnue du sel de l'océan, avant le grand voyage vers le chaud qui la hissera haut. Après avoir laissé passer une marée montante et descendante, elle inspira longuement un grand bol mouillé, puis se lança à l'assaut et bondit d'un maillon de la chaîne d'ancre à un autre. Cela lui prit du temps. Swimpy l'otarie se mit alors en route atlantique vers Cape Cross, où Charles le Chacal lui avait donné rendez-vous au pied de la croix. Il y avait patiemment stocké bois flotté et cordes élimées. Et c'est un étrange attelage qui se mit en mouvement, plein d'allant car il en fallait pour se lancer sur cette route sèche, aride de tout ce qui fait une vie d'otarie. Cap au nord, vers le pays des Imba, ces femmes et ces hommes qui se tiennent à distance effrayés de l'eau. Au même moment, Plumpt éprouva la sensation du sable chaud. Elle s'embrasa de cette joie enflammée et aspira un souffle de vent frais, puis monta en parcelles de brume dans les airs bleus. Swimpy et Charlie croisèrent des os immenses et séchés de baleines, des fantômes de marins hantant les carcasses éparpillées des grands bateaux d'antan, des bouteilles de verre dépolies pendant 100 ans. Et enfin, ils atteignirent le pays des éleveurs-pasteurs Imba, virent les premières chèvres et les premières couleurs vertes découlées d'arbustes rachitiques, parsemés d'épines, grandissant au fur et à mesure que la rivière Kunene se rapprochait. Derrière les pilotis du camp Serra Kafema se trouvait enfin ce mystère tant attendu par Swimpy, l'eau douce de la Kunene. Elle remercia longuement son camarade chacal, tenace et pugnace. Ensuite, elle se faufila dans l'eau de couleur beige. Elle était si fatiguée qu'elle se laissa filer et vit défiler les rives, les rochers, Namibien d'un côté, Angolais de l'autre. Elle fit du canyoning, découvrit des poissons qu'elle ne connaissait pas, observa des femmes et des hommes qui pêchaient. Sa bravoure la porta très loin de son océan natal, vers son rêve fou, faire le plus grand saut de sa vie à Victoria Falls. même si cela devait être le dernier. Et alors, quand elle se jeta droit devant elle, vit un tout petit nuage, un minuscule nuage. Sans doute celui d'une goutte d'eau salée qui avait voyagé avec l'air chaud du ciel si grand de la Namibie. Alors Swimplotari salua une dernière fois Plumptelot, devenu vapeur aérienne.
Donc là, c'est le voyage d'une goutte d'eau. Le voyage d'une goutte d'eau, c'est presque un classique en littérature. Mais alors là, il est vraiment revisité. Combien de kilomètres, en gros, elle parcourt cette goutte d'eau avec l'otari et le chacal ?
Plusieurs centaines de kilomètres.
Du nord au sud, alors là, je me représente
plutôt
pas
plutôt de l'ouest à l'est, c'est-à-dire l'océan Atlantique. Et le lieu où se déroule l'histoire vers la fin, la rivière Kunene, elle va de l'ouest jusqu'au Zimbabwe. Parce que le découpage de la Namibie, comme beaucoup de pays d'Afrique un peu surréalistes en termes de logique géographique, se prolonge au travers d'une bande qui est la bande de Caprivi et qui amène la Namibie jusqu'à une frontière avec le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana.
Et les chutes de Victoria dans lesquelles se termine, enfin presque, le voyage de la goutte d'eau, c'est où, dans quel pays ? Alors c'est en Namibie ?
Alors les chutes Victoria, non, là elles ne sont plus en frontière de la Namibie, elles sont à la frontière de deux pays qui sont la Zambie et le Zimbabwe.
Et c'est impressionnant ces chutes Victoria, vous les avez vues ?
Oui, j'ai eu la chance d'aller en proximité des chutes de Victoria, bon, qui sont un lieu un peu touristique, évidemment, mais qui sont parmi les plus grandes du monde, après celle du Niagara en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs le lieu où a été tourné un certain nombre de scènes du film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. La fille de Jean-Paul Belmondo s'appelant Victoria, En mémoire de ce séjour qu'il avait fait avec la mère de Victoria.
Et au cours du voyage de la goutte d'eau, de l'otari, du chacal, sont évoqués plusieurs peuples, alors, notamment un qui a peur de l'eau, c'est ça ?
Les Himba, c'est un peuple qui faisait partie d'un des rendez-vous en terre inconnue proposé par Frédéric Lopez avec Muriel Robin, où elle a amené d'ailleurs les femmes de ce peuple Himba, un peuple de pasteurs qui vit au nord-ouest de la Namibie et qui ne touche pas l'eau, effectivement. Et ces femmes entretiennent leur peau avec un mélange de terre ocre rouge pour les protéger du soleil et les graisser en même temps.
Et les Namibiens qui vivent de l'océan, enfin, c'est une majorité ou pas, ou comment ça se répartit ?
Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la culture commune, comme souvent, hein, les peuples qui sont situés en bord d'océan ou en bord de mer ne sont pas toujours les plus familiers. Et l'océan en Namibie, alors, est très froid, hein, il est à 12-13 degrés, il monte au grand maximum à 16 degrés, à cause du courant froid du Benguela. Par contre, c'est une zone qui est d'une très grande richesse halieutique. Il y a également à Lüderitz, j'avais visité un début d'ostréiculture et c'est une zone de pêche qui avait été attribuée au moment de la guerre froide pour négocier l'indépendance de la Namibie, qui s'était révélé un problème inextricable, qui avait été attribuée à l'Union soviétique à l'époque. Donc on voit des grands bateaux abandonnés russes parce qu'à l'époque, ils effectivement pêchaient. Et la deuxième richesse issue des fonds sous-marins, mais là, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer à moyen et long terme en termes d'impact sur l'environnement, ce sont les diamants. Il y avait des diamants sous la terre.
Comme en Afrique du Sud, d'ailleurs.
Hein. Bien sûr, qui est le pays proche, hein, voisin. Mais il y a également des diamants qui sont exploités dans le sous-sol marin de la Namibie.
Et alors, il y a les diamants, il y a la pêche, le pastoralisme, on l'a entendu.
L'agriculture est très importante en Namibie.
C'est ce que j'avais demandé.
Tout à fait.
C'est de l'élevage essentiellement.
Absolument.
Ou est-ce qu'il y a aussi des cultures ?
Élevage, quelques cultures, mais qui sont destinées à la subsistance des populations propres. Toute l'agriculture, en fait, dans le nord du pays, 30% de la population habite dans le nord du pays. Et ce sont eux qui génèrent toute l'agriculture destinée à nourrir le pays. L'année où j'ai fait ce voyage à long terme, puisque j'y suis allée sinon autrefois, mais sur des durées plus courtes, il y avait une sécheresse absolument incroyable et ils n'ont pu rien produire. Ça a vraiment été très, très difficile. Et durant ce voyage, quand j'étais à Tsumkwe, Alors j'avais des spectacles incroyables, mais bon, c'était pas très positif puisque les éléphants venaient boire en fait dans les réserves d'eau qui étaient destinées aux bovins, aux ovins et aux caprins. Alors j'avais les éléphants juste devant ma tente, mais ça génère des conflits d'usage, évidemment, avec les populations.
Eh bien, merci Albine pour ce compte éclairant.